L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors cette semaine, je vous propose de rencontrer un scientifique et plus précisément un toxicologue généticien, c'est comme ça qu'on dit ?
Toxicologue génétique.
Alors bonjour, bonjour Francis Finot.
Bonjour Nicolas.
Alors vous avez passé une longue carrière dans la toxicologie génétique, dans le secteur de la pharmacie je crois. Et vous êtes aujourd'hui à la retraite et membre de la Société française de toxicologie génétique.
Oui, exactement, oui.
Alors, on va revoir aujourd'hui avec vous deux choses. Bon, la première, évidemment, vous l'aurez compris, chers auditeurs, c'est comprendre ce qu'est la toxicologie génétique, puis également voir que des projets toxiques, eux aussi, continuent de se monter en France sous couvert d'écologie même. Et il s'agit des chaudières CSR. Et il en existe peut-être près de chez vous, alors soyez bien à l'écoute. Alors, commençons par le commencement. C'est quoi la toxicologie génétique ? Francis Finot.
Alors la toxicologie génétique, comme son nom l'indique, c'est toxicologie, donc c'est toxique pour l'ADN, donc c'est de détecter les substances qui vont être toxiques pour l'ADN. Donc dedans nous avons tous les produits cancérogènes, mutagènes et aussi en fait tout ce qui va vraiment altérer l'ADN, donc ça c'est vraiment fondamental. Donc c'est assez simple en fait, donc on a des tests, beaucoup de tests in vitro. Et on détecte en fait l'effet sur les chromosomes, sur les gènes, sur la mutation.
Alors, on a entendu cancérogène, donc là, on parle de maladie, mais est-ce que ça peut avoir des conséquences autres sur quand on parle d'ADN ? C'est quoi l'autre danger à part le cancer ?
Le cancer, c'est un phénomène de la toxicité par rapport à l'ADN. Vous avez aussi les mutations. Donc, par exemple, alors là, on irait dans la tératologie, donc les malformations. Donc,
c'est-à-dire une maman qui serait polluée par un principe ou un autre, créer des malformations comme ce qu'on a pu voir dans certaines zones viticoles en particulier, où certains traitements abusifs des cultures peuvent créer autour. On se rend compte qu'au-delà des cancers, il y a aussi des problèmes chez les nourrissons et chez les fœtus.
C'est exactement ça, parce qu'en fait, quand une molécule est toxique, on dit qu'elle est réactive, donc elle réagit avec l'ADN. L'ADN, c'est une protéine. Mais ces molécules réactives peuvent aussi réagir avec les autres protéines de l'organisme. Donc on peut avoir aussi, par le même mécanisme, en fait, des produits neurotoxiques, des produits... Tout ça, en fait, la toxicité vis-à-vis de l'ADN, c'est qu'une petite partie de la toxicité, en fait. Et on est très focalisé sur le cancer, mais bon, vous avez aussi les atteintes cardiovasculaires, les atteintes neurologiques. Donc là, c'est aussi des molécules qui vont être réactives, qui vont réagir, en fait, avec les cellules, avec les protéines des cellules, et qui vont provoquer des atteintes, des malformations, des maladies, voilà. C'est maintenant, il faut bien penser qu'une partie de la population est vraiment malade due à l'environnement. Il y a un effet environnemental. Donc ça, on entend parler au niveau de la pollution atmosphérique, au niveau de l'eau, au niveau de la malbouffe aussi, parce qu'en fait, il y a tous ces molécules qui peuvent aussi intervenir par rapport à la... À la façon de se nourrir.
Aux intérieurs aussi, à tous ces objets usuels.
La pollution intérieure, par exemple, oui, vous avez tous les coves à l'intérieur, hein, le formol qu'on peut retrouver aussi à l'intérieur des maisons, les moquettes, enfin tout ça. Donc il y a vraiment quelque chose qui est dû à l'environnement. Voilà. Donc la toxicologie génétique, c'est qu'une petite partie de la toxicologie, mais c'est une partie importante parce qu'en fait, on met en évidence les molécules, une partie des molécules réactives.
Est-ce que vous avez étudié, vous, dans votre carrière, les effets, ce qu'on appelle les effets cocktails ? C'est-à-dire parfois, une molécule en elle-même ne va pas être très dangereuse, mais le mélange de plusieurs de ces molécules dans le corps, elle, va le devenir.
Dans une partie de la toxicologie génétique, on s'intéresse aux impuretés génotoxiques. Alors les impuretés génotoxiques, ça va être, on va fabriquer une substance et dedans, elle va contenir des impuretés. Ces impuretés vont être génotoxiques. Pendant longtemps, on gérait les impuretés génotoxiques une par une. Et on s'est rendu compte qu'il y avait possibilité d'une somme commune de ces impuretés. Donc la somme de ces impuretés ne fait pas 1 plus 1, mais va risque de potentialiser l'effet toxique, quoi. Donc ça, les effets cocktails, effectivement, parce que quand on étudie en fait une molécule, on l'étudie séparément pure. Donc on va dire cette molécule, par exemple, va provoquer des atteintes rénales. Et on va étudier une autre molécule, elle va avoir des atteintes de cardiotoxicité. Bah, mis ensemble, on aura l'effet rénal, l'effet cardiotoxique, mais aussi peut-être d'autres effets. Et ça, c'est jamais vraiment étudié, puisque un des paradigmes en fait, de la science, on étudie paramètre après paramètre. Et donc les effets cocktails, ça, c'est quelque chose qui n'est pas étudié en termes de pollution. On s'amuse pas à vérifier l'ensemble de tous les effets des molécules ensemble sur des conditions expérimentales. C'est toujours molécule après molécule.
Alors Francis Finot, vous avez été malin. Vous êtes dit, conscient de cette pollution, pour la retraite, je vais aller me mettre au vert. On est chez vous, là, je suis venu vous voir. Oui. On est en plein dans le vert. Et malheureusement, même perdu au fin fond, loin de tout, hein, on peut pas venir en train chez vous. Hein. Ouais. Et en fait, vous êtes rattrapé finalement par votre carrière et vous en ouvrez même une nouvelle de militant, je crois.
Alors, pour la petite histoire aussi, je suis asthmatique depuis ma plus tendre enfance. Donc, je suis très sensible, en fait, à cette pollution atmosphérique. Et ici, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, c'est magnifique. On respire bien, il n'y a pas de pollution, effectivement. Et très vite, j'ai eu des copains qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, voilà, il y a un projet qui se construit sur le plateau de Lannemezan. C'est une chaudière CSR. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était qu'une chaudière CSR. Hein. Donc, on me décrit, je me documente. Je trouve ça assez génial dans un premier temps, parce que qu'est-ce que c'est qu'une chaudière CSR ? C'est une chaudière, on va se chauffer avec les déchets. Donc on dépollue d'une certaine façon, puisqu'on va éliminer des déchets, on va les brûler, et on va se chauffer avec. Je me suis dit, c'est génial, c'est vraiment intéressant. Et puis j'ai gratté un peu le sujet, j'ai regardé, puis en définitive, on pollue selon des normes. Et donc les normes qui sont utilisées, elles sont exprimées en milligrammes par mètre cube d'air. Et les recommandations de l'OMS sont en microgrammes par mètre cube d'air. Donc c'est 1000 fois plus faible. On va polluer de façon normale, autorisée, mais on pollue. C'est un peu la même chose que les voitures. On va avoir des gaz qui vont s'échapper, des molécules, des microparticules qui vont s'échapper. Mais le problème, contrairement à la voiture, c'est de l'essence. Donc c'est un corps qui est quand même purifié. Les déchets, c'est une quantité de résidus, de molécules différentes. Par exemple, si on prend les plastiques, on sait que dans du plastique, on peut avoir 16 000 molécules différentes. Dans un simple morceau de papier blanc, on peut avoir 80 molécules différentes. Donc on va brûler un ensemble de molécules dont on ne sait pas toujours les effets. En plus, on vit une société formidable, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'innovations. Donc on produit de nouvelles molécules innovantes, des nanoparticules, les fameux PFAS qui existent depuis longtemps.
On rappelle ce que sont les PFAS ?
Alors, les PFAS, ce sont des molécules qui ont été découvertes en fait pour bloquer, rendre le système aussi imperméable. Admettons, c'est quand vous fabriquez quand vous avez une molécule réactive, elle se fixe, quand vous faites cuire votre steak, elle va se fixer sur le métal. Les PFAS vont avoir cette propriété d'empêcher cette fixation. Donc ce sont des molécules qui sont fluorées, qui sont extrêmement résistantes, qui sont indestructibles à la chaleur et qui sont utiles, imperméables à l'eau. Donc par exemple, ignifugés, ou alors les vêtements comme le Gore-Tex. Voilà, c'est ce type de, ou alors simplement quelquefois le carton de pizza. Le carton de pizza peut aussi avoir, pour pas que le gras diffuse dans le carton. Voilà. Donc c'est un ensemble de molécules très intéressantes, mais en définitive très embêtantes parce que la plupart sont indestructibles. Et quand elles sont destructibles, elles forment des entités réactives qui, elles, se fixent de nouveau sur les protéines et vont être à l'origine de certaines maladies.
Oui, on parle d'ailleurs de nouvelles amiantes en fait. avec les PFAS.
Oui, c'est diffusé, ça a été diffusé partout, et donc c'est quelque chose d'épouvantable. À cette occasion, lors justement du congrès, du dernier congrès de la SFTG, était présent Monsieur Karg Franck, donc un spécialiste des PFAS, et donc pour lui, il estimait que les chaudières à CSR devaient être stoppées en 2026, parce que dû aux PFAS, quoi. Parce qu'en fait, le problème des PFAS, il faut une température élevée pour les détruire. Pour les détruire, il faut monter à 1300-1400 degrés. La chaudière, dans les textes de recommandation, on est à 850 degrés. Donc en discutant, en poussant un peu les porteurs de projets, on sait que la chaudière va être aux alentours des 1100 degrés, mais on ne va pas détruire tous les PFAS. Et ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce que ça va faire dans le relargage dans l'atmosphère. On ne sait pas du tout. Et le gros problème aussi, c'est qu'on pourrait avoir des filtres ultra performants, comme il y a un incinérateur à Copenhague qui est ultra performant, avec une réduction vraiment presque à l'état de trace des polluants. Mais là, la chaudière CSR, on ne sait pas. On ne connaît pas clairement la technologie. Elle n'est pas complètement dévoilée. Et on a l'impression que ça va dépendre du financement, du coût, voilà. Et
on va voir ça dans une deuxième partie d'émission. Pour l'instant, on va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter ?
Bah oui, Pink Floyd, Money, oui.
you're right.
Alors, nous sommes de retour avec Francis Finot, toxicologue génétique, donc, et on est en train de parler de ce projet de chaufferie CSR près de chez toi.
Oui,
cette chaufferie donc, qui a pour objectif qui se situe dans une zone industrielle,
oui,
déjà habituée aux, oui, pollutions, et même de manière, oui, historique.
Oui.
On a des normes, on a énormément parlé de PFAS, il y a eu une législation qui est parue en 2025, je crois, ou 24 même, sur le sujet. Et il y a deux choses que je ne comprends pas dans ce projet. C'est à la fois comment on fait quand on est simple citoyen pour avoir les informations de ce qui se construit, et comment ensuite, quand en plus on est scientifique comme toi, on peut opposer des arguments.
Mm-hmm.
Comment tout ça se passe? Parce que tu t'es rendu compte que ce projet, qui au départ parlait d'écologie, puisqu'il était question de brûler des déchets, mm-hmm, et de le transformer en énergie pour, mm-hmm, les industries locales, donc, mm-hmm, utiliser immédiatement, mm-hmm, on parlait de projets écologiques, je crois,
et de réduction de CO2. Parce qu'en fait,
de réduction de CO2.
Voilà. C'est exactement ça, parce que c'est en remplacement d'une chaudière à gaz d'Arkema. Et donc, ils ont eu l'idée de faire ça en disant que ça va diminuer le taux de CO2. En fait, ce n'est pas complètement vrai non plus, puisque les objets qu'on fabrique sont fabriqués avec de l'énergie fossile. Et ils disent que les déchets sont des denrées renouvelables. C'est quelque chose qui n'est pas vrai en soi, puisque en fait on renouvelle, mais on consomme de l'énergie fossile à chaque fois, et on va libérer du CO2 quand ça va brûler, quoi.
Comment déjà on se renseigne sur ce qui est en,
oui,
place, et comment, alors en plus toi tu es scientifique, c'est-à-dire que si tu avais pas été là, je sais pas comment les autres se seraient dépatouillés cette affaire. On leur aurait dit circulez, il y a pas de problème, regardez, on est aux normes et tout va bien, madame la marquise.
C'est exactement ça. Et il faut que connaître le sujet, il faut être scientifique, parce qu'en fait, même qu'on a affaire aux études d'impact, qu'on les lit, ça reste un argumentaire excessivement scientifique. Et surtout, c'est que les responsables de projet sont des gens très bien, présentent très bien, et savent vendre leur projet. Et donc, quand ils présentent ça au maire, tout le monde trouve ça génial, parce qu'ils ne vont pas penser que on peut avoir des failles, que c'est pas complètement bordé. Donc c'est un peu faire feu de tout bois. C'est, on dit, on va pouvoir brûler les déchets, et comme ça, on va se chauffer avec notre propre gaz, nos propres déchets. Ça se fait, alors il y a des enquêtes publiques, et donc les enquêtes publiques, faut voir l'enquêteur, on a accès au dossier, faut lire le dossier sur place, c'est quelque chose qui est contraignant, parce qu'on ne peut pas partir avec le dossier, l'amener chez soi, enfin voilà, même s'il y a des accès à Internet, etc. Donc ça demande une véritable connaissance scientifique, quoi, c'est pas... Et après, une fois qu'on est scientifique, qu'on dit les choses, on n'est pas forcément entendu, parce que qu'est-ce qui compte en finale? C'est aussi l'argent, c'est encore une fois l'argent. On nous a dit, si vous luttez contre la chaudière CSR, il y a un chantage à l'emploi, les gens vont être licenciés... Donc vous ne pouvez pas...
Les entreprises du coin vont être sensibles à l'énergie, au coût de l'énergie, donc fragilisées.
C'est ça, exactement. Et donc, il y aura des licenciements et vous ne pouvez pas lutter contre ça. C'est un sujet très délicat parce qu'on est pris à la fois par les collègues qui travaillent, quoi. Et puis, on n'est pas pris au sérieux non plus en tant que scientifique, parce que de toute façon, c'est trop compliqué à expliquer. Et puis on nous dit, bon, circuler, il n'y a rien à voir. C'est un peu ça, quoi. C'est vraiment un peu ça.
Alors quand on a quand même, on peut pas empêcher finalement, on peut quand même empêcher des nouvelles usines de se créer, puisque les normes sont un peu basses. Sur qui on fait pression? Sur les industriels eux-mêmes, sur l'élu qui signe le permis de construire, sur le préfet? Qui c'est que vous êtes allé voir, vous, dans votre combat?
On a fait... Alors, le gros problème qu'on a eu, c'est que, en fait, le projet a été accepté par le préfet, par l'ensemble de l'administration, par l'ADREAL, etc. quoi.
Parce qu'il était aux normes.
Parce qu'il était aux normes, oui. Parce que les gens ont eu très confiance. Par exemple, il y a eu le même type de projet qui a été fait à Marseille, qui, lui, a été retoqué. Mais à Marseille, ils avaient, ils étaient beaucoup plus mobilisés. Ici, ils ont caché volontairement, dans un premier temps, une certaine forme d'information.
Alors, ILS, c'est qui a caché?
C'est l'ensemble...
De la chaîne de décision?
La chaîne de décision, oui, c'est l'ensemble de... Parce qu'en fait, ils ont préféré montrer en petit comité avec une démarche très commerciale, très, très positive. Très positive, dire voilà, on va éliminer les déchets, on va en plus fournir du chauffage, on va diminuer l'effet de CO2, enfin la production de CO2. Donc ce projet est vertueux. C'est bête, quoi. C'est un choix politique. On choisit d'incinérer en France. À Copenhague, les bouteilles en plastique sont réutilisables. Elles sont consignées. En France, nos bouteilles en plastique, on les jette. On va les recycler. Mais même dans le recyclage, il y a un problème. C'est-à-dire quand on recycle, on fait rentrer des impuretés dans les produits qui sont recyclés. Et donc, on risque d'avoir des encore plus de pollution après. Donc, c'est vraiment... C'est pas ça. Enfin, on est dans une véritable impasse à ce niveau-là.
Pourtant, en Europe, il y avait eu un progrès à l'époque. Alors, je crois un progrès en demi-teinte, hein, qui était le règlement REACH, oui. Qui obligeait... Alors, c'est en 2007, si mes souvenirs sont bons, qui obligeait les industriels à prouver que les molécules qui étaient dans leur processus industriel ou dans leur fabrication ou dans l'objet fini n'étaient pas nocifs à l'environnement. Oui. Alors les effets cocktails ne faisaient pas partie du règlement REACH, ça c'était, je crois, une de ces grandes problématiques. Oui. Mais comment les choses ne s'appliquent pas là ?
Le règlement REACH existe toujours, hein, mais c'est appliqué en fait avec le tonnage. Si vous fabriquez des petites quantités d'une molécule, vous serez moins astreint que si vous fabriquez plusieurs tonnes. Voilà. Et donc les tests qui vont être développés dans la réglementation REACH sont proportionnels au tonnage. Et bien évidemment, si on ne réalise pas les tests parce que c'est des petites quantités de produits, mais je dis des petites quantités de produits, ça peut être une tonne de produits. Une tonne, c'est quand même quelquefois suffisant pour avoir des effets toxiques, quoi. Donc c'est la limite de REACH et malheureusement c'est encore quelque chose qui est à étudier, c'est-à-dire les molécules, si on les brûle, quels sont les métabolites, quoi, enfin, en gros les entités oxydées qui se forment. Et ça, on n'a pas dans REACH, c'est pas quelque chose qui est étudié, non, c'est pas quelque chose qui est étudié. On prévoit pas, si on fabrique une molécule pour une peinture, de la brûler à 1000 degrés, quoi. C'est pas... Pourtant, si cette peinture, on la met sur du bois, et puis si ce bois se trouve dans la composition du CSR, elle sera brûlée. Donc si au départ, cette peinture, c'était du blanc, et puis contenait des nanoparticules de titane, les nanoparticules de titane vont pas être oxydées et vont s'agréger certainement avec des PFAS ou avec d'autres... Alors la nanoparticule de titane, elle a la particularité d'être difficilement... Elle peut pas être vraiment oxydée, mais il y aura quand même des réactions qui pourront être faites, quoi. Et on crée des chimères, des hybrides de molécules qui sont relarguées et qu'on n'arrêtera pas avec les filtres parce que là on est au niveau nanoparticules. Quand on parle de microparticules, on est au micromètre des particules ultra fines, c'est pareil. Nanoparticules, on est au niveau du nanomètre, quoi. Et donc on a des nanoparticules qui sont aussi présentes un peu partout dans les vêtements, qui sont utilisés. Et là, on ne sait pas du tout ce que ça fait, quoi.
Et on les retrouvera dans l'eau, dans la terre, dans l'air, pendant des milliers et des milliers et des millions d'années, même pour certains.
Non, c'est affreux. Non, c'est hors... ma femme me dit souvent, oh là là là... Quelle tristesse, enfin, c'est terrible d'avoir épousé, parce que justement, je vois les choses jusqu'au bout, quoi. Et c'est terrible, c'est terrible. Alors que ça ne devrait pas. On fait tous les tests, il y a énormément de gens qui travaillent dans le bon sens, etc. Mais je ne comprends pas pourquoi, toujours, des raccourcis sont pris. Enfin, si, c'est toujours la même chose.
C'est l'argent. Et c'est bizarre dans un pays quand même, le pays des Lumières, le pays de philosophes et d'ingénieurs, c'est un pays quand même aussi d'ingénieurs, de médecins, c'est quand même un pays qui s'est construit là-dessus, qui a construit sa réussite et sa renommée là-dessus, et on est en train de brader face à l'argent. On arrive à la fin de cette émission, Francis Finot. Alors moi, j'ai été sensibilisé à cette question des CSR par, au mois de mai, on va les rencontrer cette année, le rapport qu'a fait Zero Waste France. Oui. Donc sur Zero Waste France, qu'on retrouve en ligne, hein, si les auditeurs veulent aller plus loin sur ces chaudières, se renseigner sur le danger, sur cette fausse bonne idée. Hein, ça part, il faut bien faire quelque chose des déchets, mais parfois, finalement, l'enfouissement de certains déchets est quand même plus moins nocif, et on le répète encore une fois, le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Voilà. Évitons d'en créer. Francis Finot, vous, des conseils de lecture au-delà de ce, je suppose, ce rapport aussi qui est tombé dans votre combat contre cette chaudière CSR est tombé à point nommé. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres conseils de lecture aux gens qui voudraient se renseigner?
Conseil de lecture, il y a ce guide Zero Waste, hein, sur les incinérateurs, qui est bien. J'irais, c'est plus que la lecture, c'est de garder l'esprit ouvert et s'ouvrir en fait sur tout ce qui existe en termes de connaissances, mais aussi il y a énormément des émissions radio. Après, c'est difficile parce que moi, je baigne dans un monde où ça va être des lectures, des revues scientifiques, de ce genre de choses, et là, c'est pas vulgarisé.
Oui. Bon, si vous avez un combat, surtout essayez de trouver en fait un scientifique indépendant, de préférence à la retraite, surtout. Oui. Et comme ça, il n'a pas de problème avec son employeur. Exactement. et vous aurez de bons conseils. Ouais. Alors l'émission touche à sa fin. Francis Finot, j'ai voulu vous rencontrer moi suite à la publication du rapport de Zero Waste France, rapport sur les incinérateurs, guide, on pourrait dire, sur l'incinérateur Zero Waste France, qui au départ considérait le travail pour qu'il n'y ait pas de déchets. Ouais. Et pensait que c'était une solution, et sont revenus au bout d'un moment. Ouais. par la science sur cette décision, sur le sujet. En texte de vulgarisation scientifique, c'est vraiment ce qu'il faut regarder si on s'intéresse au sujet.
Oui, absolument. Oui, c'est vraiment ça qu'il faut lire. Oui, absolument.
Et on finit, tu voulais finir, tu m'as dit, avec une, pas un proverbe, mais...
Oui, c'est...
Une parabole.
Une parabole. Vous arrêtez de fumer, c'est génial. Mais si vous êtes à côté d'un incinérateur, à quoi ça sert? En fait, vous allez être pollué par votre incinérateur alors que vous arrêtez de fumer. Donc ça, c'est vraiment garder présent à l'esprit que la pollution, c'est ça aussi, quoi. On peut faire des efforts, on nous demande de faire des efforts, de lutter pour arrêter de fumer, par exemple. Mais si vous êtes dans un environnement pollué, bon, voilà.
Y compris son intérieur, elle a aussi fait attention. Il vaut mieux parfois un vieux meuble en bois ciré que le... Voilà, c'est pas cher.
C'est pas cher, vous allez à Emmaüs, vous trouvez un buffet à 50 euros en bois. Voilà, oui, c'est vraiment... Non, les mobiliers des meubles suédois, là, que tout le monde connaît, non, faut pas, ça relargue énormément, enfin c'est...
Ouais. Même au quotidien, c'est-à-dire en plus c'est pas très durable et à un moment c'est brûlé, ouais. Mais en plus au quotidien c'est polluant pour l'atmosphère de votre maison. Ouais. Merci Francis Finot, on va finir là-dessus. Merci. Bonne continuation et bon combat contre ce projet de CSR qui est un peu perdu en fait.
Oui, c'est un projet perdu, mais ce n'est pas perdu, c'est de continuer à communiquer, de continuer à apprendre et puis voilà, rester éveillé, quoi. La lutte est dure.
Joli conseil. Amis auditeurs, restez éveillés. Merci Francis Finot, au revoir.
Merci Nicolas, au revoir. Au revoir.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.